Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Ronan Lemoyle qui est le directeur général d'Arkéa Crédit Mutuel.
Tout à fait, bonjour.
C'est correct. On s'est rencontrés à une soirée, je pense qu'autour de Litchi, de mémoire.
Exactement, c'était pour fêter l'acquisition de Litchi par le groupe.
Exactement, voilà, avec Céline. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on discute de l'évolution de la banque à l'ère digitale. On a déjà eu une discussion, quand c'était vu dans ton bureau, qui était hyper intéressante, où on parlait de la culture bancaire, et moi je te disais, j'ai l'impression que les consommateurs ont évolué, mais que les gens qui travaillent dans la banque, pas vraiment, parce que quelque part, moi, je me souviens de cette époque, quand j'étais jeune, où quand on allait voir un banquier, on se mettait sur son 31, on avait une relation à la banque où vraiment, c'était le banquier qui vous rendait service, en fait. On avait vraiment, c'est comme ça que j'étais éduqué. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'association, alors évidemment, ça dépend des profils des gens, mais que la banque, c'est un prestataire de service, ouais. Sauf qu'en face, j'ai des personnes qui se comportent encore comme si c'est eux qui me rendaient service, en fait. Et du coup, ça fait une sorte de dissonance.
Je vois bien. Qu'est-ce que tu veux dire?
Qui fonctionne pas très bien. Et puis, on va évidemment parler de Bitcoin, on va parler de tous les services autour de la banque, et en particulier Arkéa, puisque vous faites de l'acquisition de start-up. Et je pense que aussi cette stratégie pour une banque de travailler avec des start-up et de réfléchir à comment je les intègre, etc., c'est aussi vraiment intéressant. Pour toi, tu penses que la banque, elle en est où par rapport au digital? Et pas tant le digital en tant qu'objet technique, mais de la culture qui va avec.
Oui, moi je pense, pour revenir sur ce que tu dis tout de suite, que effectivement, historiquement, il y a une relation entre le client et son banquier qui est une relation un peu biaisée, si on fait un peu de sociologie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vient chez le banquier pour demander un crédit et le banquier pour refuser de le faire le cas échéant. Donc ça crée, on va effectivement parfois, je ne sais pas si c'est en costume, en tout cas un peu la boule au ventre, on allait un peu demander son crédit, ça pouvait être un peu compliqué. Donc ça, c'est une relation historique qui s'est construite, qui aujourd'hui vole en éclat totalement. On ne va pas s'attarder dessus parce que quelque part, le digital donne accès à tout et le client reprend le pouvoir. Et donc ça pose la question pour le banquier de savoir comment il s'approprie le digital dans son métier de tous les jours. Et je crois qu'une des erreurs peut-être qu'il a faites pendant quelques temps, je parle en général de la profession, c'est de croire que le digital, c'était pas humain, c'était désincarné, donc c'était tout l'inverse de la qualité de la relation commerciale qu'on pouvait avoir en face à face. Et donc, il a longtemps résisté, le banquier, à vraiment aller à fond dans le digital. Or, finalement, quand on regarde le métier d'une banque, c'est assez simple. Il y a trois couches de valeur dans la banque. Il y a une couche que j'appellerais transactionnelle, une autre qui est opérationnelle et une autre qui est relationnelle. Le transactionnel, finalement, c'est tout ce qu'on peut faire sur un téléphone, quel que soit le device, c'est ouvrir un compte, puisque maintenant c'est possible, des virements, faire des versements, encaisser un chèque, puisque c'est maintenant possible également, faire un crédit immobilier, parce que c'est aussi possible. Bref, toutes les transactions du quotidien. Et ça, aujourd'hui, il faut admettre, il faut se dire résolument, et les banquiers l'ont compris, que le digital, il va devenir incontournable et que dans 5 à 10 ans, on y sera tous. Et ceux qui disaient encore, il y a 3-4 ans, ce ne sera pas le cas, quand ils voient du crédit immobilier fait online et par un téléphone, ils disent...
Il y a encore des gens, il y a 3-4 ans, qui disaient ça.
Il y a 3-4 ans, il y a des gens qui disaient encore... Alors, ce qui pouvait d'ailleurs pas paraître si saugrenu que ça, que de faire un crédit immobilier via un téléphone, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est plus ou moins bien, mais tout le monde le fait. Donc ça, sur le transactionnel, c'est le pas est franchi. Il y a l'autre brique, qui est la brique opérationnelle, qui est finalement toute l'interaction que j'ai avec toi tous les jours. C'est je t'appelle, je t'envoie des mails, je te fais des courriers, le cas échéant, c'est de moins en moins vrai, je t'envoie des SMS, des WhatsApp, etc. Et ça, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la banque, finalement, là-dessus, elle n'est pas très, très bonne. C'est-à-dire que l'interaction au quotidien qui fait finalement le liant de la relation, pas via l'être humain, mais via la machine, donc c'est qu'appelle le digital aussi, quelque part, on ne peut pas dire que ce soit vraiment ce qui est excellent. Moi, je dis souvent... Il faut viser d'être l'Amazon de ce genre de sujet. Et avant d'être l'Amazon de ce genre de sujet, il se passera encore un peu de temps. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup là-dessus parce qu'on a beaucoup développé ce qu'on appelle la marque blanche et le B2B. Et le B2B, c'est vendre nos savoir-faire. Et quand on vend ses savoir-faire, notamment là-dessus, il faut vraiment monter de 2-3 crans sa qualité. Mais c'est un sujet qu'il faut vraiment travailler.
C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, les banques, elles vous disent passez par la messagerie sécurisée qui est sur le site, etc. C'est invitable.
Envoyer
un SMS ou un mail ou un WhatsApp.
En fait, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de cette partie opérationnelle, comme je l'appelle, c'est moins en moins vrai, mais notamment chez nous, on essaie de soigner beaucoup par rapport à ça, c'est que la banque dit, bah, passez par le média qui moi m'arrange le plus.
Oui, c'est ça.
Qui me permet de gérer les files d'attente, etc. Sauf qu'on a oublié que finalement, si tu adresses un mail par messagerie sécurisée, que tu n'as pas de réponse dans deux jours, tu vas en envoyer un autre, puis après, tu vas passer un coup de téléphone. Donc en fait, exactement, tu vas saturer tous les canaux de exactement contact parce que tu n'auras pas eu la satisfaction d'un bon contact. Mmh. Et sachant qu'il y a Facebook maintenant, il y a WhatsApp, il y a bref, tout ce qu'on peut imaginer pour avoir l'interaction. Mais c'est vrai que cette dimension d'interaction entre les clients et leur banque, par les canaux, on va dire, du quotidien, c'est pas vraiment ce qu'on fait de mieux. Et dans le rendu digital, ça, c'est un gros progrès qu'il faut faire encore dans les années qui viennent. Mmh. Et puis, tu as la brique relationnelle, qui est la troisième brique. La brique relationnelle, finalement, c'est ce qui fait l'interaction entre toi et ton conseiller, mais au sens face à face. Mmh. Et là, ce que découvre la banque, et je pense les clients aussi, c'est que les clients, ils sont bien sûr encore pour du contact face à face quand ça se justifie. Mmh. Dit autrement, quand on atteint, et ça peut arriver, les limites de ce qu'une machine est capable de faire encore aujourd'hui. Mmh. Et au rang de ces services-là, on peut évoquer, bah, malheureusement, quand il y a une succession à gérer, quand il y a un projet immobilier, ce qui est plus heureux, un projet de financement des études des enfants. Bref, tout moment qui nécessite qui a un peu de complexité et qui va justifier pour l'assemblage, finalement, que l'être humain mette un peu de...
Oui, puis pour l'émotionnel, moi, je crois beaucoup
pour l'émotionnel. À l'intelligence exactement émotionnelle. Mmh. Je crois que le bon terme, c'est pour l'émotionnel. Mmh. Ce que les banquiers, quelque part, ont compris, je pense, c'est que pour l'émotionnel, il y aura toujours de la place, pourvu que ce soit supérieur à ce que le digital propose.
Mais c'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience qu'on a avec des banquiers, malheureusement, alors là, je parle de mon expérience, mais malgré tout, je crois que ça s'est partagé, c'est que la personne en face... Et c'est vrai qu'en France, on n'apprend pas à l'école à développer son intelligence émotionnelle. Hein, mais...
Moi, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que surtout pendant très longtemps, la banque... D'abord, il faut dire que pour une grande majorité d'entre eux, les clients des banques disent avoir une très bonne relation avec leur conseiller, au sens de la personne. Donc l'intuitu personnel est souvent très bon.
D'accord.
Là où ils disent qu'il y a, et c'est vrai, alors pas à 90%, mais c'est vrai à 70-80%, là où il y a un vrai sujet, c'est que, quelque part, je ne sais pas s'il faut dire le mode opératoire, mais quelque part, la posture qu'on demande au conseiller par rapport au fonctionnement de la banque, parfois va couper ce lien émotionnel que tu évoques. Parce que, encore une fois, je donne des traits très caractéristiques. Il va y avoir à traiter ce qu'on appelle les incidents de paiement tous les jours qui va faire qu'il y aura des rejets de paiement de temps en temps. Mm-hmm. Parce que le crédit, ça peut arriver, une mensualité n'est pas recouvrée et que le conseil va surtout appeler pour dire où en est l'argent qu'on devrait recevoir. Mm-hmm. Donc, quelque part, tu ne te donnes pas d'espace permettant d'avoir avec ton client une relation qui soit une relation apaisée, de confiance, etc. Mais pas toi, l'individu, l'organisation. Ouais, donc aujourd'hui, et c'est un vrai point de progrès sur lequel travaillent beaucoup d'acteurs, il s'agit de dire, bah, le conseiller, lui, il est là pour apporter une solution à des moments de vie clés. Tout le reste, finalement, il serait quand même bien souhaitable qu'il soit traité différemment, soit parce que ça peut être automatisé, et le digital pourrait ça pour faire beaucoup, soit parce que ça peut être traité aussi par des plateformes, ce qui peut rendre service et aux clients et à la banque, sans que ça vienne interférer dans la relation individuelle. Donc je crois que moi, je ne mettrais pas tellement en cause les conseillers qui, nous, n'est parfait, mais dans la grande majorité, ont une bonne relation qualitative, mais la promesse de valeur qu'on leur demandait de délivrer. Mm-hmm. Et cette promesse de valeur, elle va évoluer, et elle va évoluer sincèrement vers plus d'interactions et d'émotionnel, comme tu l'évoquais, pour que finalement, ce que je dis souvent, l'endroit où finalement tout se passe quand on achète une maison ou un appartement, c'est quand on a son crédit. J'ai rarement vu quelqu'un faire sauter un bouchon de champagne dans le bureau de son conseiller. Or, c'est là où ça se passe.
C'est vrai
qu'il faut, bien sûr, c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il faut redonner la place à l'émotionnel et faire en sorte que dans ces grands moments de vie, une naissance, un projet immobilier, le financement des études des enfants, la réussite et l'obtention du diplôme, on puisse avoir cette joie et ce moment d'émotion qui crée de la fidélité.
Et d'ailleurs, ça serait peut-être, enfin là, je divague un peu, mais ça serait peut-être intéressant de créer des espaces, parce que les bureaux des banques ne sont pas non plus, enfin, j'imagine pas, enfin, moi, je ne me vois pas très bien ouvrir une bouteille de champagne dans le bureau de mon banquier, en fait. C'est pas un espace qui est vraiment fait pour, en fait.
Ça change beaucoup. Nous, par exemple, on travaille beaucoup sur un concept d'agence qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant, qui sont quelque part des espaces... Parce que je dis souvent, avoir, par exemple, ce qui est notre cas à nous, je crois que si on met tout bout à bout, on a 6 km de linéaire dans nos agences. Et quelque part, moi qui viens un peu de l'Internet, en étant patron de Fortuneo, je me dis... Avoir de l'espace qui accueille le public, ce n'est valable que si j'ai un trafic qualifié. Donc, si avoir beaucoup d'espace et pas de trafic, ça n'a aucun intérêt. Or, ce trafic, le faire venir des gens pour l'interaction transactionnelle, ça n'a plus de sens, la machine peut le faire. Donc, il faut les faire venir pour des moments un peu clés, comme ceux que tu évoquais, où il y a de l'émotion. Et pour qu'il y ait de l'émotion, pour que ça marche, il ne faut pas que ça se fasse dans des lieux sans âme. On est d'accord. Bah, ouais. Donc, nous, on a travaillé sur des concepts, alors je ne peux pas le décrire là, parce que ça ne s'entend pas, ça se voit, et qui sont ouverts, il n'y a plus de bureaux fermés, il y a beaucoup de couleurs, il y a des fresques sur lesquelles on parle des projets de vie, c'est tout se fait par iPad et puis par ordinateur. Donc, il n'y a pas de fixe, on est côte à côte, on n'est pas face à face. C'est tout bête, on offre un café. Bref, des choses qui créent. Il y a des écrans de télévision, on peut interagir, on peut attendre dans une manière sympathique le rendez-vous qu'on va avoir. Le conseiller est prévenu souvent que vous êtes arrivé, parce que même quand on parle de technologie Bitcoin, on peut très bien faire en sorte qu'il y ait un message qui arrive et qui dit tiens, votre client est arrivé, il attend depuis 2 minutes, depuis 3 minutes. Donc, on fait tout pour que l'espace agence soit un espace dans lequel on se sent bien et où on décloisonne. Et parce que l'émotion, effectivement, ça ne s'accommode pas d'un espace froid, par définition.
C'est ça.
Et, ça, c'est, et je pense qu'on dit souvent c'est le poisson qui fait le bocal. Bon, le bocal, ça fait aussi le poisson parfois. Donc voilà, on travaille beaucoup là-dessus.
Et alors, pour revenir sur ton point 1, et on va de toute façon faire le lien avec les startups, comment ça se fait qu'il a fallu attendre, par exemple, Bankin, pour qu'il y ait une dimension servicielle des banques? Je comprends que les banques, par exemple, gagnent de l'argent quand tu es à découvert et que tu fasses des agios, mais c'est vrai qu'une application comme Bankin, ça a été la première application, mais qui était tierce, à te prévenir si tu avais des agios. Enfin, si tu avais un découvert. Alors pour moi, par exemple, ça peut m'arriver, je ne dis pas que je suis à découvert tout le temps, mais enfin, ça peut arriver d'être à découvert, c'est juste un accident, c'est parce que je n'ai pas fait gaffe, machin, et c'est très facile pour moi de recouvrir, sauf que comme je ne regarde pas mes comptes tous les jours, ce qui est à mon avis le cas de pas mal de gens quand même, du coup, tu ne fais pas attention, du coup, tu tapes des agios, du coup, ça t'énerve. Mmh. Et pour moi, tu peux ne pas être en mesure de rembourser. Dans ce cas-là, effectivement, c'est différent. Mais si tu es en mesure de rembourser, c'est vrai que pour moi, c'est au rôle de la banque de te prévenir plutôt que de te facturer des frais. Alors, je comprends que ça l'intéresse.
Oui, tout à fait. En fait, si tu regardes un peu le modèle économique des banques, pendant très longtemps, les banques, elles ont fonctionné sur la base d'un modèle économique qui était fait sur une marge sur le crédit, pour faire simple. Mmh, à l'époque, le taux d'intérêt était différent d'aujourd'hui. On n'a pas fait la technique, le taux d'intérêt sont à zéro, voire même négatif. Bon, je ferai pleurer personne, mais en tout cas, c'est un métier qui rapporte de moins en moins. Et donc, les commissions sont mises en place. Et donc, on a commencé effectivement à facturer un certain nombre de commissions qui avaient du sens, au sens de leur valeur, à un moment donné où faire un virement, c'était fait par un individu, par une personne, que ça prenait 2-3 jours dans les systèmes d'information, etc. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, tous ces sujets sont des sujets qui se traitent en un claquement de doigts, que proposent des applications comme Bankin, comme Linxo. Il y a une directive nouvelle qui arrive, sans entrer dans des textes, ça s'appelle DSP2, c'est pas très joli comme mot, mais qui permettra demain, si tu es un client de Linxo ou de Bankin, qui est un agrégateur de comptes, de faire des virements de compte à compte d'une banque tierce uniquement par la plateforme Bankin ou Linxo. Donc maintenant, tout ça, c'est simple, c'est fluide, ça se fait naturellement. Donc le sens de l'histoire, c'est que ces commissions-là, elles vont tout doucement disparaître. Ouais. Parce que pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça, d'abord je ne dis pas de gaieté de cœur, parce que c'est un modèle économique qui change, mais je le dis parce que c'est évident. Parce que ce qui a quelque part de la valeur a un prix. Ce qui n'a plus de valeur n'a plus de prix. Par définition, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte.
Ouais,
si faire un virement, c'est un claquement de doigts et traité par une machine en une microseconde, on est d'accord pour dire que ce n'est pas ça qu'il va falloir valoriser. Ce qu'il faut la valoriser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'émotionnel, ce que j'apporte comme valeur au moment où. Pour votre projet immobilier, je vais certes être capable de vous faire un financement, mais plus que ça. Je vais vous trouver l'agence immobilière, le notaire, je vais éventuellement vous trouver peut-être l'entrepreneur qui fera la maison.
Exactement.
Je vais vous trouver, bien sûr, les assurances.
Les entrepreneurs sur mesure.
Tout ce qui va faire la valeur de mon projet. C'est ça qui aura du sens. Et donc, ces commissions-là vont être amenées à disparaître tout doucement. Mais c'est la révolution dans un modèle économique qui change et qui mute. C'est la téléphonie il y a 20 ans.
Ouais,
c'est la téléphonie il y a 20 ans qui s'est repensée intégralement. Alors, on peut y voir du bien, du mal parfois, mais en tout cas, elle s'est repensée, elle a changé de modèle économique et changé de promesse de valeur. On est dans cette phase-là.
D'accord. Donc, il y a une vraie... repenser le modèle économique.
Je pense qu'il faut repenser le modèle relationnel tout court. Ouais. Le fait de repenser ce modèle-là implique que le modèle économique va changer. Je crois que c'est une conséquence. On le repense pas dans l'absolu pour le plaisir de le changer, mais simplement comme finalement ce que je disais tout à l'heure, le transactionnel devient quelque chose d'immédiat, d'assez facile, de pas très cher, comme l'opérationnel, c'est un vrai sujet de montée en gamme et de valeur qu'on peut avoir par ailleurs, et comme ce qui fera la différence, c'est le relationnel, dans la banque de l'État en tout cas, la banque physique, c'est là il faut quelque part repenser
même
le modèle.
Dans le B2B, je crois.
Dans le B2B. Mais le B2B, finalement, c'est promettre une brique technique à quelqu'un qui, lui, va ensuite construire sa relation commerciale et donc créer, lui aussi, sa valeur émotionnelle sur cette brique technique.
Voilà.
Donc, moi, c'est ça que je crois, c'est qu'on est en train de muter, effectivement, en termes de modèle, et finalement, on comprend que ce qu'a la valeur, c'est la relation, que tout le reste, c'est du service. Je dis souvent, personne ne va chez un concessionnaire automobile d'une belle marque qu'il aime pour acheter un allume-cigare, une porte avant-droite, avant-gauche, un rayon arrière et des portes. Non. Il achète une belle voiture.
Exactement.
Pareil, tu ne vas pas acheter un crédit immobilier, un notaire, une agence. Tu as un projet de vie qui consiste notamment à acheter une nouvelle maison.
Ça fait penser un peu à la mutation qui est en train de faire Accor, d'ailleurs,
Sur les hospitalités. Exactement. J'ai discuté avec Sébastien Bazin de temps en temps, c'est la même réflexion, effectivement.
Ouais. Et du coup, pour enchaîner avec Arkéa, parce qu'Arkéa, c'est une structure un peu particulière qu'on ne voit pas nécessairement chez les autres banques, ou alors qu'on entend beaucoup moins chez les autres banques, néanmoins. Autour de l'achat de start-up, finalement.
Oui.
Est-ce que vous avez pensé... Alors déjà, je pense que ça peut être intéressant que tu expliques un petit peu ce que fait Arkéa, ce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse. Mais ensuite, est-ce que c'est pas non plus... Est-ce qu'il n'y a pas un modèle parallèle, et peut-être que vous le faites, j'en sais rien, qui consisterait à infuser des start-up en interne, mais qui seraient... Enfin, qui seraient pas des start-up que vous racheteriez, mais vraiment des trucs
qui sont... On incuberait quelque part, qu'on aiderait à grandir.
Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a un modèle à trouver pour des entreprises de la taille de Crédit Mutuel, où tu tu accompagnes des... En fait, tu crées un projet avec un entrepreneur, tu le finances, mais dès la création.
Bien sûr. En fait, pour comprendre un peu pourquoi on fait ça, nous, il faut juste 2-3 mots, et pas plus, parce qu'il ne s'agit pas de faire la publicité pour la maison, mais 2-3 mots sur ce qu'on est. En fait, nous, on a un groupe de banques assurances qui s'est construit au départ sur la Banque de l'Étail, Crédit Mutuel de Bretagne. On vient de Bretagne, on est, pour faire simple, comme je dis souvent, quand on est dans un village en Bretagne, il y a l'église, Crédit Agricole d'un côté, les CMB de l'autre. Donc on s'est construit comme ça. Puis un jour, on s'est demandé comment grandir davantage et pousser un peu les frontières, et on s'est vite aperçu, je fais le raccourci de 30 ans d'histoire, que finalement, on rend nos 3 qualités essentielles, notre ADN, on avait l'ancrage territorial, bon, ça c'est évident. On avait la technologie, c'est une vraie boîte qui travaille beaucoup sur le dimension ingénieur, nouveaux services. Ça fait sourire maintenant quand je dis ça, surtout à ceux qui n'étaient pas nés. Mais en 84, c'était la première banque, 1984, à lancer les comptes bancaires gérés sur Minitel. Maintenant, ça fait sourire. 1995, la première banque en Europe a proposé le passage d'or de bourse par Internet. Donc ça, on voit ce que c'est. C'est les banques sur Amba, Fortunio et quelques autres d'aujourd'hui. Et la première application sur iPhone en France, etc. Donc très culture techno. Et troisième qualité, c'est l'agilité. Parce qu'on n'est pas très gros, on est... très grosse PME, 9000 personnes, mais à l'échelle du système bancaire français, c'est...
C'est plus une PME, mais...
Voilà, mais c'est une très grosse PME, mais à l'échelle du système bancaire français, c'est pas encore trop gros. Donc ça bouge plutôt pas mal. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, pour pousser les murs, on va faire en sorte, bien sûr, de continuer à faire cet ancrage territorial qui fait que la banque territoriale en Bretagne, Sud-Ouest, Massif Central, c'est important pour nous. Mais on va aussi utiliser la techno pour faire avec l'Internet, Fortunio aujourd'hui, mais les partenariats techniques qu'on a pu bâtir avec un certain nombre d'acteurs du web, un grand vecteur de développement en dehors de nos territoires. Et on va utiliser notre agilité pour bâtir des relations ou des partenariats avec des gens qui vont chercher ça, c'est nous. Et typiquement, une fintech, qu'est-ce que ça cherche aujourd'hui chez un partenaire, qu'il soit capitalistique ou industriel? C'est quelqu'un qui a quand même une connaissance à peu près correcte de la culture technologique et quelqu'un qui, par ailleurs, peut bouger assez vite avec lui. Donc, c'est comme ça qu'on s'est assez vite mis en perspective et qu'on s'est dit, on va grandir par le digital. Le digital va les affranchir des frontières. Et on va donc, ça a été le premier truc emblématique, faire fortune aux banques. Et puis d'ailleurs, on va construire autre chose. C'est Litchi, c'est United Credit, qui est l'ex-Prêt d'Union qu'on connaît peut-être plus sous ce nom-là encore aujourd'hui. C'est le compte Nickel. Donc, on est partenaire historique depuis le premier jour, c'est Pumpkin, on en parlait tout à l'heure, qui est l'équivalent de ce que tu connais bien aux US. C'est Grisby, qui est un agrégateur de gestion patrimoniale. Bref, un ensemble d'acteurs pour lesquels on fait soit de la technique, soit du capital, soit les deux.
D'accord.
Et moi, effectivement, je crois beaucoup que ceux qu'on appelle, c'est comme ça qu'on les appelle, les barbares, quand on parle des fintechs, c'est pas les barbares. C'est des gens simplement qui viennent proposer une valeur différente de la nôtre. On les appelle les barbares. Ils ont été surnommés comme ça, les barbares.
Dans le métier, ça vous a fait
ça? Ouais, ils ont été appelés comme ça parce qu'elles viennent casser des codes, remettre en question le métier.
C'est dur.
Oui, mais tu sais, la banque a traversé une crise, en tout cas, et un bouleversement qui est fait de beaucoup de contraintes réglementaires, financières, fiscales qui sont arrivées. Encore une fois, ça a tapé très fort sur les modèles post-crise 2008, qui est la révolution du client, deuxièmement, qui reprend le pouvoir, et le troisième, sur les acteurs nouveaux qui sont entrés sur les verticaux, comme les pumpkins, comme les litchis, comme les autres. Donc, effectivement, certaines banques ont vu ça comme une agression, d'où le côté barbare. Nous, on n'a jamais pris ça comme ça, je le dis pour un trait d'humour. Nous, quelque part, on les voit plutôt comme des acteurs capables de nous aider à grandir, et qu'on est capable d'aider à grandir aussi. Capable de les aider à grandir parce qu'elles ont la même culture que nous, technologique, le même ADN, l'agilité, capable quelque part de nous aider à grandir nous, parce qu'elles nous permettent d'importer des savoirs qu'on n'a pas forcément, une nouvelle manière de vivre la relation client, et par ailleurs des nouvelles manières de travailler aussi, parce que c'est aussi des gens avec qui on apprend qu'on peut travailler différemment, que finalement, sans être démago, parce qu'une grande entreprise comme la d'autres, malgré tout, ça suppose une organisation bien encadrée, on peut avoir des modes de fonctionnement en mode plus agile, plus réactif.
Et vous faites, parce que moi je vois de plus en plus de boîtes qui font ça, c'est-à-dire envoyer en stage des cadres dirigeants de leur structure, donc des constructeurs, dans des startups.
On n'a pas vraiment besoin de stage parce que finalement, comme on a pas mal de startups autour de nous, on les emmène dans les startups qui travaillent avec nous. Et souvent, ils le font déjà parce que...
Vous utilisez vos ressources en interne pour qu'ils comprennent aussi l'agilité, la fluidité.
Exact. Et ne serait-ce que dans le cadre des relations qu'on a de business, puisque quelque part, quand on fait un partenariat avec une startup ou quand on prend une participation en capital, ce qu'on veut, c'est faire les stratégies. Nous, on n'est pas pour... Moi, je ne rêve pas, quand on fait une acquisition, de dire on va mettre tout ça au carré, l'intégrer, etc. Non, bon, ça, c'est... Les clients passent une fois, l'intégration, l'organisation, on la fait quand on veut. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est les synergies business. Et bien, nos dirigeants, et comme nos équipes d'ailleurs, pas que les dirigeants, mais ils vont travailler avec ces startups, ils les aident à grandir, et donc quelque part, ils s'acclimatent aussi à ce mode de fonctionnement.
D'accord.
Et forcément, quand on en revient, on en garde toujours quelque chose, et on apprend de ça aussi.
Et du coup, ça crée pas des sortes de chocs culturels, parce que c'est vraiment...
Parfois, mais quelque part, jamais... Vraiment, je crois pouvoir dire que ça n'a jamais créé de schisme, si on veut créer un peu de différence. Au contraire, je pense que chez nous, on a une... Tu sais, comme on est un challenger dans la banque assurance, on sait ce que ça veut dire que d'être plus petit et de s'appuyer sur des facteurs clés de succès qui ne sont pas ceux des gros. Moi, je dis souvent, un petit qui fait comme les gros, c'est darwinien, il disparaît. Dans nous, depuis longtemps, on a compris qu'il fallait qu'on fasse par notre propre voix et une voix un peu originale. Et donc, voir d'autres plus petits que nous, quelque part, utiliser les mêmes genres de choses, on voit ça plutôt comme une force sur laquelle on a envie de capitaliser, plutôt comme quelque chose qui nous choquerait. Non. Je ne dis pas que parfois, ça ne crée pas un peu de friction, mais c'est la friction positive. On va dire qu'on construit là-dessus.
Et du coup, avant qu'on conclue, il y a quand même un sujet, alors là ça fait déjà 20 minutes, mais il y a un sujet autour de la blockchain et du Bitcoin qui est important de toucher, je pense. Parce que ce modèle, donc tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est que la blockchain, je pense, mais on va dire qu'en résumé, c'est une manière de squeezer les institutions en disant que finalement les institutions, que ce soit les banques, les notaires, etc., c'est simplement des tiers de confiance, mais qui prennent des frais qui sont assez importants, et que bah, la blockchain, c'est un tiers de confiance informatisé qui est absolument inviolable, et que du coup, ben, enfin, c'est le principe de la blockchain, on n'a plus besoin de tiers de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire pour les banques, parce que j'ai vu tout un documentaire hier d'ailleurs sur Netflix autour du Bitcoin, où ils essayent de l'interdire, ils essayent de le réguler, ils essayent de voir comment ils peuvent créer des sortes de murs à l'intérieur, etc. Comment
Moi, il y a deux sujets dans ce que tu évoques. Il y a effectivement la blockchain en tant que telle et les crypto-monnaies. Donc, sur la blockchain, comme tu l'as fort justement dit, c'est effectivement, on veut le schématiser, c'est une manière de faire en sorte que là où on a besoin d'agents centralisateurs pour gérer les transactions, les paiements, le métier du titre, je ne sais pas, même peut-être dans d'autres domaines comme le nôtre, peut-être le covoiturage, j'en sais rien. On peut peut-être s'en passer avec un système qui, lui, dans toutes les opérations qui sont générées par les individus sur la plateforme, emporte avec lui tous les attributs nécessaires, jusque y compris la sécurité, pour qu'il n'y ait pas besoin d'agent centralisateur. Grosso modo, la blockchain, c'est ça. Une application de la blockchain aujourd'hui, c'est les crypto-monnaies, qui effectivement, dont on peut imaginer, je me passe finalement des agents centralisateurs garants de la monnaie que sont les banques centrales notamment, parce que dans ma transaction, j'embarque toutes les caractéristiques qui font que quand l'échange aurait été dénoué entre toi et moi, on est sûr, toi et moi, que c'est bien toi qui m'as envoyé l'argent, c'est bien moi qui l'ai reçu, que tout ça, ça fait bien l'objet d'un débit, d'un crédit, bref, tout est propre. Moi, ma conviction là-dessus, elle est double. La blockchain, j'y crois pour un certain nombre d'applications dans nos métiers. Je pense notamment quand on achète des actions sur les marchés, par exemple, on passe par ce qu'on appelle un compte-titre. Et je crois effectivement que demain, il y a beaucoup de projets là-dessus, beaucoup d'embryons de projets. Demain, finalement, sur les marchés financiers, avoir quelqu'un qui centralise les ordres au sens « tu achètes, je vends et on réconcilie tout ça », je pense qu'on pourra s'en passer et avoir des technologies blockchain qui vont fonctionner là-dessus. D'ailleurs, il y en a certaines qui commencent à marcher. Et on peut trouver les paiements, de la même manière, je pense que les paiements, on peut aussi imaginer des choses assez intéressantes. Le KYC, c'est la connaissance client. Peut-être que demain, on peut imaginer d'avoir, et ce sera le cas par l'identité numérique, embarqué sur un seul endroit, dans une transaction, toute ton identité numérique au moment où on fait une transaction. Donc tout ça, c'est jouable. Le problème de la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est très séduisant sur le papier. Le problème, c'est que la monnaie, dans l'absolu, sa qualité essentielle, pour toi comme pour moi, c'est qu'elle inspire confiance.
Ah bah de toute façon, c'est qu'une histoire de confiance, parce qu'en fait, il n'y a pas d'étalon or.
Voilà, exactement. Et quelque part, si tu n'as pas la confiance, tu n'as pas la monnaie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a vu sur ces crypto-monnaies, et c'est comme ça, c'est la vie, qu'elles ont été utilisées par certaines d'entre elles pour du blanchiment, pour les trafics de drogue ou autre.
L'argent aussi, cela dit.
Voilà. L'argent aussi, mais simplement, l'argent, il est régulé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les régulateurs commencent à se dire, ces plateformes commencent à exister où les échanges peuvent être très, très nombreux. Eh bien moi, j'ai envie de les réguler, je vais commencer à me demander là-dedans. Et moi, ce que je pense, c'est deux choses. Bon, d'abord, par définition, je suis pas pour le blanchiment d'argent ni le terrorisme, ça va sans dire. Mais surtout, je pense que quand les plateformes commencent à être régulées, elles perdent de leur valeur. Quelque part, la crypto-monnaie, si demain, elle est régulée sur la base de la techno-blockchain par les banques centrales européennes, je ne dis pas que c'est pas bien qu'elle le soit, mais si elle l'est, alors son avantage, au sens de ce qu'elle permet de faire, n'a plus beaucoup de sens par rapport à la monnaie classique. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup, à l'heure actuelle, je ne crois pas beaucoup aux crypto-monnaies, en tout cas sans qu'il y ait une régulation qui la regarde, et sans que la régulation, entre guillemets, vienne casser sa dynamique. Donc je suis très circonspect sur l'évolution de ces sujets-là, et pas très enclin d'ailleurs à me pencher beaucoup dessus. La blockchain en tant que technologie m'intéresse beaucoup plus dans le métier, c'est évident ça.
Ok. Et alors pour finir ce podcast... Je pose la question donc à tout le monde. À qui ou à quoi tu as envie de claquer la porte aujourd'hui?
Moi, quelque part, c'est de moins en moins vrai, mais dans le métier, il y a beaucoup de gens qui disent ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais, les nouveaux entrants. Et moi, l'idée reçue que j'ai envie de casser, c'est un peu celle-là. J'ai envie de dire, au contraire, je crois qu'il faut, dans le métier qui sont en constante révolution, il faut saisir la balle au bon et utiliser ces nouveaux acteurs qui arrivent pour nous aider à grandir et repenser notre métier, parce qu'il y a un formidable champ des possibles qui s'ouvre à nous. Et souvent, pour illustrer ça, je cite, parce que c'est pas moi qui dis, c'est le Dalai Lama, qui a une très belle phrase, il dit « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer le monde, vous dormez avec un moustique, on en reparle demain matin. Et je trouve cette phrase intéressante parce que je crois qu'aujourd'hui, et c'est un peu l'idée que j'ai envie de claquer la porte au nez, c'est de dire, il y a aucun acteur n'est trop petit aujourd'hui pour changer le monde. Ouais. Et c'est vrai dans le métier comme dans d'autres. Donc voilà l'idée.
C'est vrai pour tout d'ailleurs.
Ouais. C'est vrai pour tout.
Ouais. Génial. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.